Il est 4h en temps universel. Vous écoutez Radio France Internationale, 6h ici à Paris. Le journal. Bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
À la une de votre édition, la charge de Benjamin Netanyahou.
Le Premier ministre israélien n'a pas mâché ses mots hier. Dans une vidéo, il a réagi à l'appel lancé cette semaine par plusieurs pays, dont la France, qui dénonçait les attaques, je cite, « scandaleuses » d'Israël à Gaza. Gaza où la guerre continue, 52 morts hier selon les secours locaux. La guerre qui continue aussi en Ukraine. Et pas question de s'y opposer en Russie, même quand on a 84 ans. C'est l'âge d'une ingénieure à la retraite qui depuis 30 ans maintenant a été de toutes les manifestations pour la liberté et le respect des droits humains et qui est désormais poursuivi par la justice. Dans ce journal, on va aussi revenir sur la signature par le Royaume-Uni d'un accord de restitution de l'archipel des Chagos à l'île Maurice, sur ses démissions en série au gouvernement philippin sur demande du président après les résultats décevants aux récentes élections de mi-mandat. Et puis en Italie, la Cour constitutionnelle juge illégitime le fait de ne pas reconnaître les deux mères d'un enfant conçu par PMA. Une décision qui va à l'encontre des valeurs ultra-conservatrices du gouvernement Meloni. 21 douilles retrouvées à Washington près d'un musée juif de la capitale américaine. C'est là qu'hier, deux employés de l'ambassade d'Israël ont été tués. Un suspect a été arrêté et inculpé. Les images de vidéosurveillance du musée le montrent en train de croiser les deux victimes, leur tirant dans le dos d'abord et puis les achevant une fois tombés au sol. Un assassinat largement dénoncé à travers le monde. De nombreuses voix n'hésitent pas à crier à l'antisémitisme. Mais ce n'est pas ce que retient le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Hier, dans une vidéo, il s'est directement adressé aux dirigeants français, britanniques et canadiens, conspuant leur appel conjoint à mettre fin à la guerre à Gaza et à créer un État palestinien. Il affirme que cet appel a été salué par le Hamas et Alice Roussard, c'est la preuve selon lui que Paris, Londres et Ottawa font fausse route.
Comme à son habitude, quand Benjamin Netanyahou s'exprime en anglais, c'est qu'il ne s'adresse pas à ses compatriotes, mais au monde entier. Le ton grave, le regard sérieux, le premier ministre israélien recherché par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ne mâche pas ses mots. Il utilise l'attaque contre l'ambassade israélienne à Washington pour faire passer ses messages.
Free Palestine. Free Palestine, c'est juste la version actuelle de Heil Hitler. Ces personnes ne veulent pas d'un État palestinien, elles veulent seulement détruire l'État juif. Elles veulent anéantir le peuple juif qui est sur la terre d'Israël depuis plus de 3500 ans. Je ne comprendrai jamais comment cette simple vérité échappe aux dirigeants français, britanniques, canadiens et d'autres.
Britain, Canada and others. Dans son viseur, Emmanuel Macron, Keir Starmer et Marc Carney. Lundi, ils avaient annoncé qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face aux attaques scandaleuses d'Israël contre Gaza. Piqué au vif, celui accusé de se maintenir au pouvoir en prolongeant la guerre crie à l'hypocrisie et tourne la situation à son avantage.
Lorsque des tueurs de masse, des violeurs, des tueurs de bébés et des kidnappeurs vous remercient, c'est que vous êtes du mauvais côté de la justice, du mauvais côté de l'humanité et du mauvais côté de l'histoire.
Benjamin Netanyahou avance ensuite qu'il a autorisé l'entrée de l'aide humanitaire, mais oublie de préciser que c'est Israël qui l'a bloqué depuis presque 3 mois et que depuis le 7 octobre 2023, plus de 53 000 Palestiniens ont été tués dans des bombardements israéliens.
Et au moins 52 de plus hier, selon la défense civile gazaouie, après des frappes dans toute l'enclave. Une enclave que l'armée israélienne dit désormais vouloir conquérir. Elle a lancé un nouvel appel à évacuation hier dans 14 secteurs de la bande de Gaza, notamment dans le camp de réfugiés de Jabalia. Mais la guerre nuit à Israël et n'apportera pas de solution durable, selon le chef de l'Organisation mondiale de la santé. Hier, lors d'une allocution à Genève, il a appelé Israël à, je cite, faire preuve de pitié en arrêtant la guerre. Ce serait bon pour l'humanité, dit-il. Pas sûr que Benjamin Netanyahou réponde favorablement à cet appel, de la même façon qu'il n'a pas écouté la justice de son propre pays. Mercredi soir, la Cour suprême lui avait interdit de nommer le prochain chef du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure, pour remplacer le démissionnaire Ronen Bar. Eh bien, ça n'a pas empêché le Premier ministre israélien de le faire dans la soirée. Il a choisi le général de division David Zinni. La Russie est prévenue, le G7 pourrait maximiser la pression si Moscou n'acceptait pas un cessez-le-feu en Ukraine. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué final à l'issue de 3 jours de réunion du G7 Finance. Les ministres ont aussi affirmé qu'aucun pays qui aurait, je cite, financé ou fourni la machine de guerre russe ne pourrait prendre part à la reconstruction de l'Ukraine. On n'y est pas de toute façon, la guerre continue et gare à ceux qui, en Russie, pourraient critiquer leur propre armée. C'est ce qu'a fait Lyudmila Vassilieva, 84 ans, grande figure des milieux d'opposition opposition à Saint-Pétersbourg. Pendant des années, son statut de survivante du blocus de Leningrad entre 41 et 44 l'avait protégé de la répression, mais visiblement c'est fini. Et cet ingénieur à la retraite va désormais devoir faire face à la justice. Correspondance à Moscou d'Anissa El-Jabri.
Lyudmila Vassilieva a été depuis 30 ans à Saint-Pétersbourg de toutes les manifestations pour la liberté et le respect des droits humains. Dès février 2022 et l'envoi de soldats russes en Ukraine, on l'avait vu protester avec une pancarte « Non à la guerre » et recommencer. Arrêtée plusieurs fois, on avait pourtant encore entendu sa voix le jour de la mort d'Alexei Navalny. L'été dernier, elle avait même tenté de se présenter aux élections locales. Lyudmila Vassilieva déclarait alors « J'ai décidé de voir combien de temps cela allait prendre pour que je sois classée agent de l'étranger. » C'est finalement une pancarte qui lui vaut sa mise en cause devant la justice. Elle y avait écrit « À tous, arrêtons la guerre. Nous sommes responsables de la paix sur Terre. » Avec cette signature, avec amour, Lyudmila, enfant de Leningrad assiégée. Cette grand-mère de 4 enfants risque une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 roubles, 550 euros au cours actuel. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
C'est la fin d'un litige qui aura duré plus d'un demi-siècle. Le Royaume-Uni et l'île Maurice ont signé un accord hier. Il vise à rétrocéder l'archipel des Chagos à l'île Maurice. Londres conserve quand même un bail de 99 ans sur l'une des îles, l'île de Diego Garcia. C'est là que se trouve la base militaire américano-britannique. Pour rappel, Maurice avait obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1968, mais les Britanniques avaient depuis conservé le contrôle des îles Chagos. Dans les années qui ont suivi, près de 2000 habitants de l'archipel avaient été expulsés, notamment à Diego Garcia. Pour Olivier Bancou, président du groupe des réfugiés de Chagos, cette rétrocession est une bonne nouvelle, oui, mais ce n'est pas la fin de leur combat pour autant.
C'est une très bonne nouvelle parce que la Cour internationale de justice a tranché pour dire que la souveraineté c'est pour l'île Maurice. Alors, c'est plus de ça, a reconnu que tout ce qui a été fait envers les Chagossiens est inacceptable. Et en même temps, le droit de retour des Chagossiens sur les îles Perros-Banos-Salomon doit être reconnu. Et là, ça devient vraiment réel, le droit pour nous de pouvoir s'installer sur Perros-Banos-Salomon et aller même visiter à Diego Garcia dans un premier temps. Mais nous insistons, on va continuer notre combat sur Diego Garcia parce que le fait qu'il y a la présence de la base militaire américaine sur Diego Garcia, s'il y a des gens qui travaillent, qui vivent chez Diego Garcia, la priorité sera donnée aux Chagossiens.
À propos recueilli par Alexandra Branjon, Olivier Bancou était l'invité d'Afrique Soir hier. Son interview en intégralité est à retrouver sur RFI.fr. 88 voix pour, 5 contre et 3 abstentions. C'est à une écrasante majorité que les sénateurs congolais ont levé hier l'immunité parlementaire de l'ex-président Joseph Kabila. Lui-même sénateur à vie, ça veut dire que la justice militaire va pouvoir engager des poursuites contre lui. La haute cour militaire l'accuse de trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel pour son soutien présumé au groupe armé M23 AFC. Une chasse aux sorcières dénonce les partisans de Joseph Kabila en exil depuis un an et demi. Aux Philippines, les ministres sommaient de démissionner. C'est le président lui-même qui leur demande après les résultats décevants de son parti aux élections de mi-mandat. Ferdinand Marcos espère ainsi mettre fin à la baisse de sa popularité, Yelena Tomic.
Quelques heures après l'appel du président Marcos, pas moins de 33 ministres ont annoncé leur démission. En chute libre dans les sondages, sanctionné dans les urnes, le président philippin tente d'enrayer la débat électorale du 12 mai dernier, son parti ayant remporté moins de sièges que prévu au Sénat, tandis que ses rivaux, le clan Duterte et des partis d'opposition indépendants, ont gagné du terrain. Affaibli, Marcos espère dans la seconde moitié de son mandat unique de 6 ans réaffirmer son autorité dans un paysage politique et législatif fracturé. En réinitialisant son agenda politique, il espère parvenir à un réalignement favorable parmi les sénateurs qui siégeront bientôt comme juges lors du prochain procès en destitution de sa rivale, la vice-présidente Sara Duterte. L'enjeu pour Marcos est de taille, en témoigne aussi la victoire de l'ancien président Rodrigo Duterte qui a remporté le poste de maire dans son fief de Davao alors qu'il est détenu à La Haye en attente d'un procès devant la CPI pour crimes contre l'humanité.
La précision de Yelena Tomic. Nouvel épisode dans la guerre entre Trump et Harvard. L'administration du président américain a annoncé que l'université privée, l'une des meilleures au monde, n'aurait désormais plus le droit d'accueillir des étudiants étrangers. Ils représentent pourtant cette année 27% des effectifs. Ils ne seront plus les bienvenus a priori l'année prochaine et devront être transférés dans un autre établissement sous peine de perdre leur visa. Depuis plusieurs semaines maintenant, le ton monte. Donald Trump accuse notamment Harvard d'avoir laissé un climat d'antisémitisme se développer sur le campus, allant jusqu'à geler les subventions fédérales allouées à Harvard. Le début hier d'un procès au Guatemala, mais il était très attendu au Pérou, attendu en fait depuis près de 30 ans. C'est ce qu'il aura fallu à la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour juger le cas de Celia Ramos. Cette femme issue d'une communauté rurale est morte en 1997, quelques jours après avoir subi une ligature des trompes forcée. Et ce n'est pas la seule, plus de 300 000 femmes ont ainsi été soumises à une stérilisation forcée par les autorités péruviennes dans les années 90. Reportage de Martin Chabal.
À Lima, dans le jardin de l'association Demus qui lutte pour le droit des femmes au Pérou, Margarita Rojas est venue suivre le procès sur l'écran géant. Elle aussi a subi une ligature des trompes forcée. Elle se sent délaissée par l'État qui n'a pas reconnu les victimes.
On veut que ce procès reconnaisse notre sœur Ramos, parce que comme elle, on est beaucoup à avoir souffert de ces dégâts. Moi, quand j'avais 28 ans, on est comme des animaux que l'on a stérilisés. Comme un cheval.
Rosa a aussi subi une ligature des trompes forcée à 17 ans.
Les autorités et le gouvernement ne nous soutiennent pas. On survit, mais ils nous ont tués psychologiquement.
Pour elle, ce procès pourrait être un premier pas.
J'espère que ça fera changer les choses. Nous sommes tellement de femmes à avoir souffert. Et on va y arriver, avec l'aide de Dieu et des ONG.
Ce procès pourrait en effet inculper l'État péruvien pour sa politique de santé reproductive qu'il a menée à la fin des années 90. De quoi ouvrir la voie à des réparations pour ces femmes qui souffrent encore aujourd'hui des conséquences de ces stérilisations forcées. Martin Chabal, Lima, RFI.
En Italie, les défenseurs des droits des familles homoparentales saluent une décision historique. Hier, la Cour constitutionnelle a jugé illégitime le fait de ne pas reconnaître les deux mères d'un enfant conçu par PMA, par procréation médicalement assistée. Leur statut restait assez flou depuis des années. La justice a donc tranché et ça risque de ne pas plaire au très conservateur gouvernement Meloni. À Rome, Anne Lenir.
Les enfants de couples de femmes conçus par PMA dans un pays étranger où cette technique est légale, mais née en Italie, ont désormais le droit d'avoir un certificat de naissance mentionnant les deux mères et pas seulement celles biologiques. Cette reconnaissance de la mère intentionnelle est un grand pas en avant dans la lutte contre les discriminations, estiment les associations de défense des droits des homosexuels. Du côté de la gauche, toutes les forces expriment aussi leur satisfaction. Le Parti démocrate se félicite, je cite, d'une décision historique qui démantèle la croisade idéologique du gouvernement Meloni contre les familles homoparentales. Pour en arriver là, la Cour constitutionnelle a déclaré illégitime un article d'une loi de 2004 qui interdisait l'enregistrement à l'état civil de deux mères en tant que parents légaux. Car, a-t-elle expliqué, il est nécessaire de garantir le meilleur intérêt d'un enfant mineur. Reste que selon la première ministre Giorgia Meloni, le modèle à suivre ne change pas, les enfants devraient être élevés au sein de familles hétérosexuelle. Anne Lenir, Rome, RFI.
Rome où il est 6h13, même heure à Paris, 2h de moins en temps universel.
Gaëtan Plenet.
Le prochain journal, c'est dans un petit peu plus d'un quart d'heure. D'ici là, on est au Liban, qui, comme d'autres voisins de la Syrie, attend avec impatience la levée des sanctions américaines qui pèsent contre le pays depuis des décennies. Donald Trump l'a annoncé il y a une dizaine de jours maintenant, et Beyrouth y voit une opportunité pour plusieurs raisons. On vous les détaille dans quelques minutes avec notre correspondant. Les frères Dardenne montent les marches du Festival de Cannes, ils en ont l'habitude, qui ont déjà remporté deux palmes d'or. Les revoici cette fois en compétition avec des portraits d'adolescentes qui s'apprêtent à donner la vie. Les frères Dardenne sont nos invités culture ce matin. Et puis on va parler de diabète dans notre conseil santé du jour, une maladie qui touche plus de 500 millions d'adultes dans le monde. Ah mais d'abord on part au Mexique où le sujet des disparitions forcées refait la une de l'actualité. En cause, la découverte d'un camp d'extermination tenu par un cartel, alors que plus de 120 000 personnes sont portées disparues dans le pays. Pour leur famille, l'État mexicain est responsable à cause de son inaction. Alors elles prennent les choses en main, ces familles, et partent elles-mêmes à la recherche de leurs proches disparus. Un reportage de Marine Lebeg.
Machette et pioche en main, une trentaine de bénévoles s'alignent à l'entrée de Larusco, une forêt de pins au sud de Mexico City.
On va commencer cette journée de recherche en invoquant la divinité chercheuse qui marche à nos côtés. Que la lumière de ceux que nous cherchons illumine le chemin jusqu'à ce que nous les trouvions et nous les ramenions à la maison.
Parmi eux, Esteban Gallardo, vêtu d'un t-shirt où apparaît une photo de sa sœur Pamela, disparue à l'âge de 23 ans.
Oui. Aujourd'hui, on fait une nouvelle journée de recherche afin de comprendre ce qu'il s'est passé et trouver un indice. Elle a disparu il y a 7 ans, justement ici, et nous n'avions pas encore eu l'opportunité de chercher dans cette zone précise de la Rusco.
À ses
côtés, sa cousine donne les dernières directives aux bénévoles.
On va chercher des ossements. Si vous trouvez des vêtements, des bouteilles d'alcool vide, etc., concentrez-vous sur cet endroit, car c'est probablement là où ils sont restés un moment et où ils ont pu tuer.
Les recherches vont durer 4 jours. La famille de Pamela, accompagnée de bénévoles, de pompiers et d'anthropologues, vont passer cette partie de la forêt au peigne fin. Cette fois-ci, des membres du parquet spécialisé contre les disparitions forcées se sont joints à eux. Mais Esteban Gallardo, comme les autres familles de disparus, ne leur font plus confiance.
Au-delà de me sentir abandonné et invisible, je me sens frustré. Ça me frustre de savoir que le parquet aurait déjà pu retrouver ma sœur et d'autres personnes avec toutes les informations et tous les éléments que les familles elles-mêmes trouvent et leur donnent.
À quelques mètres de là, l'un des bénévoles met la main sur un os. L'anthropologue s'approche.
C'est animal. On le voit à l'épaisseur, c'est un os animal.
Fausse alerte. Les recherches continuent. Il ne faut oublier aucun recoin du secteur désigné aujourd'hui, car demain, ce sera une autre zone de cette forêt de 1000 hectares qui sera fouillée. Une quête sans fin qu'Esteban continue au prix de nombreux sacrifices.
Même si on a un travail, des activités, une vie, quand ces sessions de recherche s'organisent, on arrête tout pour venir. Avoir le moindre indice sur elle, savoir dans quelles conditions elle se trouve, ça nous permettrait d'avancer vers un possible deuil. Mais ne pas savoir ce qui lui est arrivé conditionne toutes nos actions, que ce soit dans la vie personnelle, familiale ou sociale.
Une situation ambiguë que vivent les familles des plus de 120 000 personnes portées disparues au Mexique à ce jour. Après la découverte d'un camp d'extermination dans l'ouest du pays, Claudia Sheinbaum a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre les disparitions forcées, toutes jugées déjà existantes ou inutiles par les familles. Marine Lebeg, Mexico, RFI.
Un reportage à retrouver sur RFI.fr et sur notre application Pure Radio. Le Fonds monétaire international évoque des discussions utiles ces dernières semaines avec les autorités syriennes. Et ça tombe bien parce qu'après des années de guerre civile pendant le règne de Bachar al-Assad, le nouveau pouvoir espère relancer une économie nationale à genoux. Et pour ça, il pourra profiter, ce nouveau pouvoir, de la levée prochaine des sanctions américaines qui pèsent depuis des décennies contre la Syrie. La loi César, notamment promulguée en 2019 et qui visait à isoler l'ex-régime sur les plans militaires, international et économique. Si c'est levé, ça veut dire que le pays va pouvoir réintégrer les institutions et les réseaux économiques et financiers internationaux. Forcément, la Syrie s'en réjouit. Eh bien, ses voisins aussi, le Liban notamment, où vous êtes notre correspondant, Paul Ralifé. Le Liban a été l'un des pays les plus directement affectés par les sanctions imposées à la Syrie. Leur fin prochaine ouvre donc d'importantes perspectives, plus particulièrement au niveau du retour des réfugiés syriens dans leur pays.
Effectivement, le président de la transition en Syrie, Ahmad al-Sharaa, avait lié le retour des réfugiés syriens à la levée des sanctions. C'est maintenant chose faite, et le Liban espère que cette mesure allégera le fardeau économique et social provoqué par la présence sur son territoire de plus d'1,5 million de Syriens, soit le quart de la population. Désormais, tous les obstacles qui empêchaient le retour volontaire des réfugiés et des déplacés sont levés. L'abolition des sanctions va certainement relancer l'activité économique et le processus de reconstruction, ce qui va forcément créer des opportunités d'emploi en Syrie. Ceux qui s'étaient réfugiés au Liban pour des raisons économiques pourront envisager leur retour. Des milliers de familles ont d'ailleurs commencé à rentrer dans leurs villes et villages. Des milliers d'autres planifient de le faire dans les semaines et les mois qui viennent.
Et autre conséquence de cette levée des sanctions, ça pourrait permettre d'améliorer l'alimentation du Liban en électricité via les réseaux jordaniens et égyptiens.
Ce projet existe depuis des années, mais sa mise en œuvre était entravée par la loi César, car la Jordanie et l'Égypte n'ont jamais obtenu les garanties américaines nécessaires pour les mettre à l'abri des lourdes pénalisations prévues par la loi César en cas de relations économiques et financières avec la Syrie. Avec la levée des sanctions, la Jordanie pourra alimenter le Liban en électricité à hauteur de 250 mégawatts via le réseau syrien. Le gaz égyptien acheminé via la Jordanie et la Syrie permettra de produire 900 mégawatts. Ces deux initiatives apporteront au Liban le tiers de ses besoins énergétiques et permettront de fournir 10 heures d'électricité par jour au lieu des 2 heures disponibles aujourd'hui.
Et pour ce qui est du secteur bancaire libanais, Paul, est-ce qu'il va vraiment profiter, disons, de la levée des sanctions américaines ?
Le Liban était de tout temps considéré comme le poumon économique et financier de la Syrie. La réintégration de cette dernière au réseau SWIFT et IBAN sera d'un grand bénéfice pour les banques libanaises qui redeviendront un couloir de transit pour les capitaux à destination de Syrie. Avec 5 établissements installés en Syrie, les banques libanaises sont les seules banques étrangères présentes dans ce pays. Cette présence, couplée au savoir-faire libanais, offre au secteur bancaire libanais une position privilégiée dans le processus de relance de l'économie et du processus de reconstruction. Les entrepreneurs, les commerçants, les banquiers et les industriels libanais sont bien positionnés pour prendre une part de l'immense potentiel offert par le marché syrien. Ce positionnement contribuera certainement à alléger l'impact de la crise économique qui frappe le Liban depuis 2019.
Merci Paul Ralifet, correspondant de RFI à Beyrouth. Il est 6h21 à Paris, c'est bientôt l'heure de remballer le tapis rouge à Cannes. Le palmarès de la 78e édition du Festival de cinéma sera présenté demain. Encore 2 films à projeter dans la compétition officielle, Mastermind de l'américaine Kelly Richard. Et puis le 13e long métrage des frères Dardenne, grands habitués de ce rendez-vous, 10e fois qu'ils montent les marches avec déjà 2 palmes d'or en poche. Les revoici avec leur dernier film, Jeune mère, sur la prise en charge d'adolescentes ou de très jeunes femmes qui s'apprêtent à accoucher. Jean-Pierre et Luc Dardenne sont nos invités culture ce matin au micro de Sophie Torlotin.
T'entends ? Il bat vite, ça fait peur. Je t'ai déjà dit, c'est normal chez les bébés.
Jean-Pierre Dardenne, bonjour.
Bonjour.
Et Luc Dardenne, bonjour.
Bonjour.
Comme son titre l'indique, votre dernier long métrage en date, Jeune mère, donc jeune mère au pluriel, c'est un film choral. On suit 5 jeunes femmes soutenues, hébergées par une maison maternelle de Liège. Pourquoi ce choix qui est plutôt inhabituel, compte tenu de vos derniers films, de tresser ensemble ces 5 histoires et non pas une seule?
Parce que on était parti pour une seule, mais on n'était jamais allé dans une maison maternelle. Et nous sommes allés dans la maison maternelle que vous avez vue dans le film, parce que c'est là qu'on a tourné finalement. On a découvert, je dirais, une dizaine d'éducatrices, une psychologue, une directrice, rien que des femmes, et des jeunes mères avec leur bébé. Si on partait de ce lieu, de ces filles, voilà. Et donc, c'est devenu un film choral. Donc, 5 jeunes mères. Comment est-ce qu'elles peuvent s'en sortir? On va essayer de raconter que oui.
Elles sont très différentes, ces 5 jeunes filles, mais ce qui les rassemble, c'est ce déterminisme social. En tout cas, cette expérience, dans chaque cas, de la pauvreté.
C'est vrai que les filles qui sont là, ce sont des jeunes filles qui, il y a un déterminisme social et affectif. La vie peut aussi donner d'autres possibilités.
Pourquoi tu m'as abandonné ?
À quoi ça peut te servir de savoir ça ?
J'en ai besoin.
Jean-Pierre et Luc Dardenne, est-ce que vous diriez que c'est des histoires de répétition aussi, familiales, mais aussi de réparation ? En tout cas pour certaines d'entre elles, de ces jeunes mères.
C'est sûr qu'elles répètent des choses, notamment liées à leur propre mère. Donc les jeunes mères qui ont un bébé répètent ce qu'elles ont vécu quand elles étaient enfants avec leur mère, qui peut-être, elle aussi, répète quelque chose. Et c'est de ça dont il faut se libérer.
Et vous les filmez non pas comme des victimes, mais moi j'ai presque le sentiment que vous les filmez comme des battantes, comme des guerrières.
Et c'est ce qu'on a essayé en tout cas. Ce sont des jeunes filles qui veulent, plus ou moins consciemment, sortir des déterminismes et du destin qui les écrase. Elles ne savent pas toujours qu'elles veulent en sortir, mais c'est en se battant avec ce qui leur arrive, en refusant ce qui leur arrive, en parfois en abandonnant, en laissant tomber les bras aussi.
Jean-Pierre et Luc Dardenne, Jeune mère est votre 13e long métrage et c'est le 10e qui a les honneurs de la compétition à Cannes. Et vous avez déjà tout gagné, 2 palmes d'or, différents grands prix, les prix d'interprétation. Est-ce qu'il y a toujours cette même excitation? Est-ce qu'il y a toujours ce même projet? Pour un film, Cannes, c'est un coup de projecteur, j'imagine. unique.
Comme vous dites, vous imaginez bien, voilà. Et que même nous, si on y va pour la 10e fois en compétition, c'est chaque fois qu'un film différent. Donc pour le film, ce sera la première fois. Et pour les 5 jeunes filles qui seront là, ce sera la première fois. Donc ce sera aussi la première fois pour nous par procuration. Je pense que c'est comme chaque fois que vous recommencez quelque chose. Il n'y a jamais rien qui est acquis.
Un festival de Cannes, c'est sportif. On est là, on arrive, les interviews, manger, interview, manger. Ouais. Puis machine, les photos, le photocall, c'est tout un parcours de sportif, quoi. Je vais pas dire un parcours de combattant, j'irai pas jusque là, mais ouais, mais c'est amusant à faire.
Jean-Pierre et Luc Dardenne, merci.
Merci à vous. Merci.
C'est plus ma sœur. Je veux qu'il ait des parents qui l'aiment. Je veux plus connaître la misère. Je veux m'en sortir.
Les frères Dardenne et leur film Jeune Mère qui sera donc présenté à Cannes ce vendredi et qui sort, notez-le, en même temps en salle en France.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
C'est une maladie qui touche plus de 500 millions d'adultes dans le monde. Caroline Paré et son invité nous parlent de diabète ce matin.
Docteur Marine Albron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diabétologue dans le service de diabétologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à PHP à Paris. Est-ce que nous sommes égaux face au diabète ou y a-t-il des prédispositions chez certaines personnes?
Il y a sans aucun doute des prédispositions, à la fois pour le diabète de type 2 et le diabète de type 1. C'est deux sortes de diabète différents, mais dans le diabète de type 2, qui est le diabète qui survient surtout chez des patients assez âgés, avec un surpoids, il y a une énorme prédisposition génétique familiale. Il est bien rare d'avoir un patient pour lequel on ne trouve pas dans la famille des patients diabétiques. Pour le diabète de type 1, il y a une prédisposition mais qui est beaucoup moins fréquente.
Pourquoi l'activité physique, c'est si important et tellement recommandé pour des personnes atteintes de diabète?
Parce que c'est un moyen de faire baisser la glycémie. En fait, c'est assez simple à comprendre. Si on fait du sport, si on fait de l'activité physique, on va consommer parce que on a une activité, les muscles ont besoin de glucose et par conséquent, c'est un des moyens de faire baisser la glycémie.
Merci docteur Albron aujourd'hui dans notre émission Questions de femmes. Comprendre et prendre en charge l'anémie, véritable problème de santé publique chez les femmes en Afrique subsaharienne. Dépistage, carence en fer, maladies associées, alimentation. Comment prévenir l'anémie qui peut avoir des répercussions sévères sur la santé? C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel, à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
À tout à l'heure, Caroline Paré, le retour de l'information africaine dans 3 minutes. Mais d'abord, de la musique, et c'est dans notre playlist du mois sur RFI. Danny Bumba, chanteur, guitariste, créateur de mélodies avec ce qu'il aime lui-même qualifier de soul congolaise. Un artiste qui chante la paix, l'amour, le partage et qui à 40 ans n'hésite plus à mettre ses propres histoires dans ses chansons. Dans ce titre, et puis quoi encore, il mêle le lingala au français. Ça donne ça.
Et puis quoi encore avec mon cœur?
Sur mon cœur avec ton corps, j'aime entendre comme il résonne au cœur corps quand il frissonne. Appuie sur mon cœur avec ton corps, épice le décor d'amour vainqueur. Mets du piment dans ma vie, mets du ciment dans mes envies, épice le décor d'amour vainqueur.
Et puis quoi encore avec mon cœur? Et puis quoi encore avec mon cœur?
Danny Bumba, et puis quoi encore? C'est dans notre playlist du mois sur RFI. Le journal, dans 2 minutes, à tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amard.
À l'occasion de l'exposition Mission Dakar Djibouti contre-enquête, nous reviendrons sur le pillage d'objets d'art africain dans les années 30. Que racontent ces collectes sur la colonisation? Comment restituer les objets spoliés? L'historienne de l'art Bénédicte Savoie et la commissaire Gaëlle Beaujean seront avec nous.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsaire.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Au Maroc, comme dans de nombreux pays, la préservation de l'environnement est une source d'innovation et de création d'emplois, par exemple dans l'agriculture ou l'énergie. Nous sommes à la grande conférence de l'économie verte qui réunit de multiples entrepreneurs cette semaine à Rabat.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.